Vous écoutez France Culture.
Réplique, scène de la vie conjugale avec Emmanuel Pagano et Yasmina Reza. On raconte, écrit Jean-Claude Milner dans son dernier livre, que le Sphinx proposa à Œdipe l'énigme suivante. Quelqu'un procrée avec quelqu'un. Quelqu'un épouse quelqu'un. Quelqu'un couche avec quelqu'un. Quelqu'un aime quelqu'un. Quelqu'un prend son plaisir avec quelqu'un. Combien sont-ils ? Deux, répondit Œdipe. Le sphinx sourit et dit « Tu as gagné, sache néanmoins que tu as déchaîné la peste sur l'humanité, tu lui as donné le mariage idéal. » Les individus démocratiques que nous sommes, étant triomphalement venus à bout des contraintes et des conventions qui ont pendant des siècles pesé sur les affinités électives et la vie à deux, la littérature confronte aujourd'hui avec une lucidité cruelle et une précision implacable la réalité, la concrétude de l'amour à l'idéal que nous portons en nous. Ainsi en va-t-il du roman de Yasmina Reza, Heureux les heureux, qui a reçu un accueil triomphal amplement mérité, et du recueil de fragments d'Emmanuel Pagano, Nouons-nous. Et je m'arrêterai d'abord au titre de ces deux livres. Il joue sur la répétition. Je vous demanderai donc, à l'une et à l'autre, quel sens il faut leur donner. Que veut dire Nouons-nous, Emmanuel Pagano ?
Alors, Nouons-nous, bien sûr, il y a l'idée du « nous », ça m'intéressait d'écrire à partir de la première personne du pluriel, de laisser de côté un peu le jeu tout en le gardant. Et évidemment, il y a cette dualité dont vous parliez dedans. Mais il y a surtout l'idée du fait que cet impératif-là est une histoire de lien et de nœud, et qu'il me semblait que dans la relation à deux, la relation amoureuse, le nœud, le lien... Il pouvait être à la fois source de bonheur comme de malheur, et que se nouer, c'était s'attacher, faire du lien, mais aussi
être noué,
oui, c'est vrai, mais aussi être dans une espèce de nœud impossible à démêler. Voilà, il y avait tout ça.
Et il n'y a pas de point d'exclamation, c'est un « nouons-nous ». Mais c'est quoi ? C'est une sorte d'impératif
qui est
différent. Marie-Laure Delorme, dans l'article qu'elle vous a consacré, dit « Vous n'avez pas intitulé ce livre « Aimons-nous » alors
non.
que l'impératif qui paraît évident, c'est celui-là. L'aspiration, c'est celle-là, d'une sorte d'amour réciproque, d'un « nous » amoureux.
L'amour, déjà, il me semblait qu'il était déjà là, et après, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et en particulier, allons-y, nouons-nous, au départ, c'était... C'est une petite expression comme ça que j'ai écrite dans un mail que j'adressais à quelqu'un, et je me suis dit « Ah tiens, ça pourrait être un titre de livre ». Et le livre est venu après, il y avait d'abord le titre. Et c'était un élan. Au départ, c'était un élan. « Allez, nouons-nous. Allons-y, essayons. » Et après, je me suis dit « Ouais, c'est pas si simple que ça, le nœud. » Mais le sentiment... Pour moi, il était déjà...
Le sentiment est déjà présent.
Il était déjà présent et en même temps, non, puisque moi, j'ai beaucoup de mal à le décrire, ce sentiment. Donc, je travaille sur les conséquences de ce sentiment plutôt que sur le sentiment en lui-même.
Et nous le verrons tout à l'heure. Enfin, dans ce « nouons-nous », nombre d'histoires racontent des séparations, racontent des ruptures. Donc, le nouons-nous, mais ça se dénoue souvent et de manière douloureuse.
Oui, mais j'espère, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais j'espère qu'il y a autant de rencontres et de liens qui durent que de séparations. Mais c'est vrai que la vie étant ce qu'elle est, et puis surtout du fait qu'elle se finit, à un moment donné, c'est rare de finir ensemble. Donc forcément, il y a une séparation, de toute façon, au final. Mais voilà, j'espère qu'il y a autant de...
Je n'ai pas compté. Moi non plus. Enfin, donc, Yasmina Reza, Heureux les heureux. D'où vient ce titre? Quelle est sa signification?
Alors le titre, c'est la dernière ligne d'un poème de Borges, qui est un évangile apocryphe, et qui se termine par « Heureux les aimés et les aimants, et ceux qui peuvent se passer de l'amour, heureux les heureux ». Il est fait sous la forme de l'évangile, et j'ai aimé beaucoup cette répétition du mot « heureux les heureux », parce que, d'abord, je dois dire une chose, c'est qu'il ne sera jamais aussi beau ce titre qu'en français. Parce qu'en français, dans la dimension du mot heureux, il y a la dimension du mot chanceux. Ce qui n'existe pas, même en espagnol, qui est la langue originale de la phrase, felices los felices, ou en italien, felici, felici, c'est heureux tout court. En France, heureux, il y a cette dimension de chance. Et cette phrase est pour moi extrêmement belle et très très profonde, puisqu'elle tente à dire que la capacité de bonheur est une disposition et ne dépend pas des contingences, ne dépend pas de l'autre. Et l'amour, je partage tout à fait avec Emmanuel cette difficulté de contourner ce mot, mais je le vois moi-même comme une sorte de stratégie de vie, et qui dans l'esprit commun et dans notre éducation est censé conduire au bonheur. Or, heureux les heureux, et chez Borges, signifie que ne sont pas heureux ceux qui aiment ou qui n'aiment pas, sont heureux ceux qui ont cette capacité profonde en eux, quelle que soit la circonstance.
Oui, d'un autre côté, le titre est d'autant plus fort, d'autant plus beau, que ce livre fait état du malheur, du désarroi de tous les personnages. Donc on comprend bien le sens de cette prière, puisqu'au bout du compte, personne n'est heureux. Et s'il y a un couple qui semble échapper au malheur généralisé, d'abord, leur bonheur est un peu réduit à néant par dès le premier monologue, nous verrons le sens de cette forme, puisqu'ils sont dits recroquevillés dans une volonté de bien-être conjugal, ils s'appellent l'un et l'autre nouvellement mon cœur, et ils disent des phrases du genre « mangeons bien ce soir mon cœur ». Donc c'est un bonheur assez ridicule, et d'autant plus ils sont frappés par une terrible malédiction, puisque leur enfant a cette folie incroyable, après s'être entiché de Céline Dion, lui qui est un garçon, de s'identifier complètement à elle. Donc en fait, heureux les heureux, oui, parce que le malheur est généralisé dans votre livre. Le malheur, en tout cas, une certaine souffrance.
Oui, vous voyez une ironie dans le titre, elle est possible. Moi, je vois plutôt comme un fatalisme.
Oui, un fatalisme. Ouais, je ne dis pas forcément une ironie. Je dis c'est même une certaine tristesse, malgré
oui,
tout. Il y a une tristesse dans ce titre, dans cette répétition elle-même. On voudrait que ça vienne, on répète le mot parce que ça n'est pas là.
Oui, c'est très juste. Oui.
Et alors, j'en viens maintenant, justement, à la forme que vous avez l'une et l'autre choisie. Alors, Emmanuel Pagano, il n'est pas dit roman, il n'est rien dit. On ne peut pas même dire nouvelle. Vous avez réécrit des recueils de nouvelles, notamment Un renard à main nue. Mais là, ce sont des fragments, des vignettes. Certaines ont deux ou trois lignes, quasi aphorismes. D'autres, plus longues, n'ont jamais plus de pages, tels des poèmes en prose. Mais la prose y est très présente, nous le verrons. Donc, que signifie ce choix? C'est-à-dire, il y a une dissémination d'histoires auxquelles vous n'avez pas choisi de donner plus d'amplitude.
Oui,
Emmanuel Pagano.
Au départ, j'ai eu cette idée parce qu'au moment où j'ai commencé à écrire ce livre, c'était au mois de fin juin, début juillet 2010. j'avais l'impression de ne pas avoir assez de temps pour un roman. Et j'avais fait déjà cette erreur d'appréciation de temporalité avec le livre précédent, parce que pour les mêmes raisons, j'avais écrit des nouvelles et que finalement, ça m'a pris autant de temps, puisqu'il fallait les lier entre elles. Et puis, pour ces fragments, il fallait évidemment travailler de manière à ce que chaque mot soit vraiment à sa place, parce que quand on a deux lignes, on n'a pas intérêt à se gourer sur une virgule ou un mot. Et du coup, ça m'a pris autant de temps, mais j'avais l'impression d'être plus vite satisfaite d'un tout petit résultat. Mais je pense que ce n'était pas la vraie raison, parce que quand j'ai commencé ça, j'avais peur de ne pas pouvoir dire tout ce que j'avais à dire, de raconter tout ce que j'avais entendu qui me semblait passionnant. Et évidemment, il en reste plein encore qui me viennent maintenant et que je voudrais encore mettre. Et voilà, j'avais envie d'en mettre tellement, il y avait tellement d'histoires qui me plaisaient. Et du coup, je ne les ai pas développées, mais j'ai voulu faire en sorte que dans chaque fragment, il y ait la possibilité d'un développement. C'est-à-dire que moi, je sais pas, j'essaie plusieurs formes d'écriture, mais toutes sont narratives. Il y a chaque fois une histoire dans chaque. Même quand il y a deux lignes, il y a une histoire. Et j'avais envie d'en parler.
Y a-t-il un sens, je ne sais pas comment dire, presque ontologique à cette dispersion ? Je lis un tout petit fragment. Il y a quand même des histoires de 3-4 pages. Là, elle me sort de l'ordinaire par des gestes pourtant ordinaires, des gestes et des mots de tous les jours. Elle a une autre manière d'être là. Une image, là, en effet, surgit pour nous. Mais on pourrait dire, voilà, un écrivain décide pour un roman de prendre des notes. Voilà. Il commence par ces fragments et puis, dans un deuxième temps, il veut les unifier en une totalité. Vous avez choisi, vous, de pulvériser la totalité, vous avez choisi la dissémination.
Oui. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans des livres précédents qui étaient des romans et dans celui que je suis en train d'écrire, qui est un roman aussi. Je rassemble des choses qui, a priori, n'ont rien à voir les unes avec les autres, que je lis, etc. Mais là, si je devais lier toutes ces situations, moments, etc., il me semblait que je perdais justement leur possibilité de développement. C'est comme si c'était presque des idées de livres, des petites graines qui n'ont pas germé, qui pourraient germer. Voilà, le pourrait germer, je voulais le garder. Si je le rassemblais dans un roman, j'enlevais ce pourrait germer.
D'accord, je comprends. Alors, Yasmin Ariza, vous avez aussi une forme très originale, puisque c'est une sorte de roman choral, 21, je crois, monologues. Deux personnages qui ne sont pas juxtaposés. On se rend compte très vite qu'ils sont liés entre eux par des rapports conjugaux, familiaux ou amicaux. Alors, comment vous est venue l'idée de cette forme, en effet, nouvelle ?
Eh bien, j'avais toujours, me semble-t-il, et aussi bien dans les pièces que dans les livres, aborder la question du désarroi du couple en général, mais jamais de manière frontale. C'est-à-dire, je n'avais jamais fait de ça un sujet. Et il s'est trouvé que, par le hasard de la vie, quelqu'un est venu, un producteur américain, qui était patron de la chaîne HBO, et est venu me proposer d'écrire pour eux. Je ne sais pas, 40 ans plus tard, quelque chose comme un remake personnel, enfin, j'en ferai ce que je voulais, des scènes de la vie conjugale de Bergman. D'ailleurs, c'est amusant que vous ayez intitulé l'émission « Scènes de la vie conjugale ». Bon, j'étais évidemment incroyablement flattée, en même temps terrifiée. J'ai revu le Bergman, qui est un chef-d'œuvre. Enfin, il n'y avait pas de cas que je puisse aller derrière ça. D'abord, pour la raison que Bergman avait saturer le terrain, et deuxièmement parce que aller frontalement sur la conjugalité et en plus uniquement sous forme de dialogue, puisque c'est une, ça aurait été une série, me paraissait pas approprié pour moi et trop triste d'une certaine façon. Mais ce qui m'est resté, c'est l'idée de la série. Et parce que j'aime beaucoup les séries, on va très loin dans les séries, on creuse en profondeur, c'est pas latéral comme le romanesque ou le cinéma. Ça, on peut prendre un personnage et puis le diguer d'une certaine façon. Et cette idée de série m'est restée, et l'idée d'ouvrir la conjugalité, non pas l'espace conjugal simple, mais l'espace amoureux ou de nœud, pour reprendre le titre d'Emmanuel. Depuis que j'ai écrit ce livre, je ne sais pas le définir, donc je bafouille un peu. En tout cas, tout ce qui me paraissait de l'ordre du rapport sentimental, sexuel, le lien affectif de cet ordre, j'ai cru pouvoir écrire sous forme de chapitres liés, comme des épisodes d'une série, l'histoire de personnages, mais auto-pertinentes à chaque fois. C'est-à-dire que chaque chapitre, à mon sens, peut se lire simplement, seul, isolé, mais c'est mieux.
C'est mieux, bien sûr.
Si on le rattache à la constellation générale. En fait, j'ai écrit une constellation.
Vous avez écrit une constellation, mais vous racontez aussi que vous avez vu un film où vous voyez un personnage qui s'adresse à l'écran. Ça a déclenché en vous cette idée, parce que vous étiez encore dans la perspective de répondre à cette commande. Peut-on penser qu'un jour, justement, Heureux les Heureux deviendra une série culte de HBO?
Alors, c'est très juste. C'est vrai que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, je n'ai pas dit non tout de suite, parce que c'était une proposition quand même assez folle. Et je l'ai revue aux États-Unis, je l'ai revue plusieurs fois, et je lui ai dit, finalement, c'est un thème littéraire. Et à moins que vous vouliez filmer des monologues. Et il m'a répondu, mais filmer des monologues, c'est formidable. Vous savez, ça s'est fait plusieurs fois. Benen, ça, je connaissais. Mais il y avait aussi la pièce 8, qui était littéralement remarquable, où Emma Thompson, c'était Mike Nichols qui l'avait réalisée. Elle s'adressait à la caméra par monologue, et ça marchait formidablement. Donc, le tout premier monologue dans le supermarché, j'ai commencé à l'écrire dans cette perspective d'être lu par un acteur et d'être ensuite filmé par la caméra. Et ensuite, j'ai complètement perdu de vue cet aspect-là pour en faire un livre. Je dois vous dire, c'est vrai qu'ils attendent la traduction anglaise pour voir ce que ça donne.
Et... Donc, oui, c'est ce pas n'est pas exclu.
Non.
Ce n'est pas exclu. Alors, hommage quand même à Bergman. Le premier est monologue. C'est vrai que le livre démarre tambour battant. Le monologue de Robert Toscano, qu'on retrouve tout au long du livre, est une scène de la vie conjugale tout à fait explosive. Elle a lieu dans un supermarché. Je voudrais simplement en lire la première page, si ça ne vous ennuie pas. On faisait les courses pour le week-end au supermarché. À un moment, elle a dit « va faire la queue pour le fromage pendant que je m'occupe de l'épicerie ». Quand je suis revenu, le caddie était à moitié rempli de céréales, de biscuits, de sachets alimentaires en poudre et autres crèmes de dessert. J'ai dit « à quoi ça sert tout ça ?»« Comment à quoi ça sert ?» J'ai dit « à quoi ça rime tout ça ?» Tu as des enfants, Robert. Ils aiment les Crusli, ils aiment les Napolitains, les Kinder Bueno. Ils adorent. Elle me présentait les paquets. J'ai dit, c'est absurde de les gaver de sucre et de gras. C'est absurde ce qu'a dit. Elle a dit, tu as acheté quel fromage? Un crottin de Chavignol et un Morbier. Elle a crié, et pas de Gruyère! J'ai oublié et je n'y retourne pas. Il y a trop de monde. Si tu ne dois acheter qu'un seul fromage, tu sais très bien que tu dois acheter du gruyère. Qui mange du morbier à la maison? Qui? Moi, j'ai dit. Depuis quand tu manges du morbier? Qui veut manger du morbier? J'ai dit, arrête, Odile. Qui aime cette merde de morbier? Sous-entendu, nous reviendrons sur le sous-entendu, à part ta mère. Donc là, on a vraiment une scène de la vie conjugale. Et il y a là quelque chose qui, me semble-t-il, relie vos deux livres, c'est-à-dire un lien sans cesse fait entre l'intensité des sentiments, positive ou négative, et en quelque sorte la trivialité du monde, de la vie, de l'environnement, des objets. C'est absolument constant chez l'une et chez l'autre. C'est peut-être aussi ça, l'art du roman. Kundera dit très bien, l'art du roman, c'est l'art de la prose, non pas seulement comme manière d'écrire, mais justement le corporel, le quotidien, le prosaïque. Et le prosaïque est perpétuellement là, et notamment dans cette scène absolument extraordinaire, Yasmina Reza. Et c'est vrai tout le temps dans votre livre.
Moi, c'est vrai tout le temps dans ce que j'écris. Je ne saurais pas écrire sur la guerre, sur les grands événements. Je comprends très bien qu'il puisse être matière à littérature, mais moi, je ne saurais pas le faire, donc je ne vais pas là où je ne comprends rien. Ce que je comprends, c'est le malheur du jour après jour, c'est-à-dire le malheur du quotidien, les objets qui sont nos ennemis, la répétition des choses qui est notre ennemi, l'usure, la mauvaise lumière, le temps qu'on n'a pas, toutes ces choses qui n'apparaissent pas, qui sont des tout petits malheurs, qui ne sont même que des égratignures, qui sont même que des empêchements. Mais tout ça fait le lit du grand malheur relationnel.
Et on a un peu... il y a quelque chose un peu du même ordre chez vous, Emmanuel Pagano. D'ailleurs, dans le Prière d'insérer de votre livre, il y a toute une énumération de l'amour, plus des copeaux de bois, du produit pour les vitres, une clochette, du shampoing, des oiseaux, des écharpes, des appareils photos. Donc, il y a une omniprésence de l'objet et même de l'objet trivial.
Oui.
Emmanuel Pagano.
Non, mais parce que je souriais parce que je pensais au crumble dans Le Dieu du carnage de Yasmina Reza qui m'a fait beaucoup rire et qui après amène plein de choses et on en vomit et voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se cristallisent sur comment a été fait le crumble dans cette pièce. Et oui, mais parce que vous avez dit au début, là, dans votre citation, comme s'il y avait une opposition entre la concrétude et un idéal. Et pour moi, il me semble que l'idéal, il est justement dans la concrétude, dans le prosaïque. Et alors, exactement comme Yasmina, je suis incapable d'écrire autre chose. Et je pense que c'est parce que je n'ai pas accès dans mon écriture à l'abstraction des sentiments. Je ne sais pas faire dire aux personnages leurs sentiments, et en particulier le sentiment amoureux. Donc j'essaie de le faire passer par des gestes, par des choses très concrètes. Et de toute façon, il me semble que beaucoup de choses se logent là et qu'il est là, notre idéal. Il passe par notre corps, oui. Mais c'est comme ça qu'on est vivant. Donc,
Alors, je citerai plus longuement avant de poser... une question encore. Kundera, dans Le Rideau, parlant de Don Quichotte, le pauvre Alonso Quijada a voulu s'élever en personnage légendaire de chevalier errant. Pour toute l'histoire de la littérature, Cervantes a réussi juste l'inverse. Il a envoyé un personnage légendaire en bas, dans le monde de la prose. La prose, ce mot, ne signifie pas seulement un langage non versifié, il signifie aussi le caractère concret, quotidien, corporel de la vie. Dire que le roman est l'art de la prose n'est donc pas une lapalissade. Ce mot définit le sens profond de cet art. L'idée ne vient pas à Homère de se demander si, après leurs nombreux corps à corps, Achille ou Ajax avaient gardé toutes leurs dents. Par contre, pour Don Quichotte et pour Sancho, les dents sont un perpétuel souci. Les dents qui font mal, les dents qui manquent. Sache, Sancho, qu'un diamant n'est pas aussi précieux qu'une dent. Bon, tout cela est là, donc ce caractère concret, corporel de la vie, par où peut passer le sentiment, mais aussi qui peut être une épreuve pour le sentiment. Et il me semble, je crois que c'est un peu vrai aussi pour vous, Emmanuel Pagano, mais il me semble, Yasmina Reza, que vous n'envisagez jamais que l'éros puisse résister à l'usure, ou que la vie à deux puisse être, selon l'expression de Milton, une conversation ininterrompue. Au fond, vous voyez dans le mariage, dans la vie conjugale, pour reprendre une expression d'Irène Théry, le démariage toujours à l'œuvre, quelque chose qui en fait s'effiloche. Il y a, au fond, pour dire « Heureux les heureux » est un livre imprégné d'un pessimisme profond. Yasmina Reza.
Certainement, tout ce que j'ai écrit jusque-là, et je vois, j'ai rien écrit de particulièrement optimiste, bien que j'espère joyeux et gai, néanmoins, et drôle. Mais le mariage, pour moi, m'a toujours paru, d'abord, je n'y crois pas, je n'ai jamais été mariée moi-même, comme une construction tout à fait illusoire. Le mariage, pour moi, c'est vraiment une construction sociale. Je ne vois pas avec la meilleure volonté du monde ce qu'il a à voir avec l'amour. Il n'est dit nulle part dans la génétique humaine que aimer signifie vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est une décision sociale, c'est une stratégie métaphysique, disons plutôt, plus modestement, une stratégie existentielle pour échapper à la solitude, échapper à la mort. Enfin, on croit que parce qu'on est deux, on est un peu moins seul, ce qui, de mon point de vue, est une erreur encore plus fatale. Mais je ne crois pas, moi, à la conjugalité comme mode de vie. Je n'en tire aucune... Je suis juste un écrivain, pas du tout un essayiste, un philosophe, encore moins quelqu'un qui réfléchit sur le bien-être de l'homme. Donc peut-être que je n'ai pas raison personnellement. Mais il me semble que dans les couples qui arrivent à se maintenir et à être heureux, pour reprendre mon titre, il y a toujours, chez l'un ou chez l'autre, quelqu'un qui travaille ardemment à conserver cette matrice. Si ce n'est pas le cas, si les deux sont en expansion personnelle, ça ne peut qu'être pulvérisé.
C'est très catégorique, je ne chercherai pas à vous démentir, mais je voudrais vous demander, Emmanuel Pagano, est-ce que, justement, au bout de cette expérience d'écriture, nous en nous, et de toute la diversité de situations que vous imaginez, vous aboutissez à une conclusion proche de celle de Yasmina Reza?
Non, mais déjà, je ne les imagine pas. Parce que moi, je n'invente rien, je ne fais qu'écrire des choses à partir de situations, d'échos que j'ai, de choses plus ou moins proches de moi ou lointaines que j'entends, parce que je suis très, très à l'écoute. J'ai enfin trouvé le mot que je cherchais pour dire cette écoute, et je l'ai trouvé en discutant avec un conservateur de musée, c'est la veille documentaire. Je pense que je suis tout le temps en veille documentaire sur tel ou tel sujet selon ce sur quoi je travaille. Et donc je récolte beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qu'après parfois je mélange tant et si bien qu'elles deviennent fictives. Mais j'imagine rien. Donc tous les bouts de ces histoires, soit l'histoire entière, soit des morceaux de ces histoires, existent quelque part ou ont existé.
Oui, mais vous n'imaginez rien, Emmanuel Pagano, mais alors, raison de plus, c'est-à-dire oui. Au bout de la lecture de toutes ces histoires qui ont un fond de vérité, on est, le lecteur est quand même assez malheureux. J'en lis une, nous sommes partis pour un petit week-end à deux, nous nous connaissions à peine, et déjà il me demandait de signer en bas des cartes postales qu'il écrivait à ses proches, ses amis, à sa vieille maman chérie, voilà, qui n'est pas tout à fait exaltant. Il y a aussi cette toute petite histoire, ça rejoint un peu le cas du couple qui s'aime dans le livre de Yasmina Reza. Ces baisers n'étaient pas des baisers, mais des poutous. Ces bisous des enfants sur la joue ou dans le cou pour jouer. Ils claquaient, ils étaient désagréables. Il n'était pas un enfant, encore moins le mien. Il m'embrassait pourtant partout, comme ça, en faisant du bruit, sans tendresse, sans désir, en jouant. Et la régression infantile, en effet, est la tentation de nombre de couples. Et j'ajoute, je n'ai pas fait le compte, mais que les ruptures, les séparations sont très nombreuses, jusqu'à celle-ci, qui a dû avoir lieu et qui est terrible. Hein, dernier fragment que je vais lire. Au début, nouvelle et confuse, je me suis laissé tomber dans les bras qu'il venait d'ouvrir pour moi. Je n'étais entré en maison de retraite que sous la pression de mes enfants. Je me sentais perdu, je me sentais trahi. Il était là, il me réconfortait, il me proposait une histoire d'amour consolante à cet âge où je croyais avoir tout oublié de l'amour. Quand j'ai retrouvé mes marques, il m'a quitté. Je n'avais rien oublié de l'amour, ça fait toujours aussi mal. Il s'est tourné vers une pensionnaire qui commence à avoir des signes de démence avec des troubles de mémoire. Une aide-soignante m'a demandé d'arrêter de pleurer. Elle m'a dit qu'il n'en valait pas la peine. Elle le connaît depuis longtemps. Il ne s'attache qu'à des femmes désorientées. Il veut qu'elles aient besoin de lui. Quand elles se remettent un peu, comme vous, il les abandonne. C'est signe que vous allez mieux. Mais quand même.
Oui, mais la première nouvelle, le premier fragment, enfin, c'est presque des nouvelles, la première et oui. La dernière, ne sont pas de cet acabit et sont plutôt optimistes.
Donc voilà, donc vous ne choisissez pas entre...
Non, je ne choisis pas et j'y crois encore. Alors, ça ne veut pas dire que j'y crois pour moi, parce que peut-être que si j'y croyais suffisamment pour moi, je n'écrirais pas ces choses-là, que ce soit celles qui sont, on va dire, pour faire simple, pessimistes ou optimistes. Mais j'y crois, oui, pour... je crois au lien, oui. Alors, est-ce que c'est vivre ensemble? Est-ce que c'est vivre ensemble par épisode, en pointillé? Ou est-ce que c'est vivre ensemble vraiment au jour le jour? Ça, je ne sais pas quel est le mieux, puisque je pense que ça dépend des situations, etc. Mais je crois au lien amoureux. J'ai envie d'y croire. Maintenant, pourquoi il faudrait peut-être fouiller, je ne sais pas.
De toute façon, ce serait un exercice très difficile, oui. D'écrire sur le lien, sur la réussite. Enfin, le roman n'est pas fait pour le bonheur. Donc, peut-être que ça existe, mais qu'il est presque impossible à la littérature de le prendre en charge sans tomber dans le gnangnan.
De toute façon, être heureux ou malheureux, c'est pas mon sujet. Voilà. Et je pense que ça le sera jamais. Et pour personne, je pense, la question, elle est pas là. Puis, c'est un concept qui nous dépasse tous. Mais par contre, cette idée de considérer comme le mariage comme une construction sociale, ça oui, et parfois malheureusement ou heureusement, on n'évite pas pour telle ou telle raison de problèmes sociaux. Mais...
Enfin, les gens se marient aujourd'hui pour rendre leur amour public, puisqu'ils n'ont plus aucune autre contrainte.
J'avais une contrainte qui a changé depuis la loi du mariage homosexuel, mais elle est très très compliquée à expliquer, je ne vais pas le faire là, ça nuirait tout le monde, mais j'ai eu une contrainte... presque juridique pour me marier, oui. Mais bon, je ne suis pas restée longtemps mariée.
Beaucoup se marient simplement pour justement publier, publier leur amour.
Ça, c'est intéressant comme question, oui. Du coup, publier, rendre public les choses. Oui. Il y a un film que j'aime beaucoup qui est « Ceux qui m'aiment prendront le train ».
De
Patrice Chéreau, où à un moment donné, il y a un personnage qui dit le mariage, ça sert à dire oui, j'étais là, il y a des gens qui étaient là pour prouver, il y a des témoins. D'ailleurs, il y a une petite histoire comme ça dans mon livre à propos de ça, du témoignage dans le mariage. J'étais témoin, oui, c'est vrai, il t'a aimé, il y a des témoins extérieurs. Et ça, c'est intéressant par contre. Pourquoi on a besoin de l'extérieur pour être à deux, pour être entre seulement deux, on a besoin quand même d'un témoin, d'un extérieur, d'un public. Ça, c'est intéressant comme question.
Oui, quand même. Alors, vous dites que vous ne croyez pas au mariage.
Ce qui ne veut pas dire, pardon, que je ne crois pas au lien amoureux.
Ah oui. Oui, mais justement. Ouais. Mais vous avez un personnage, Chantal Audouin, qui n'y croit pas non plus. Hein, et elle commence son monologue de manière assez belle et tonitruante. Un homme est un homme, il n'y a pas d'homme marié, pas d'homme interdit, ça n'existe pas tout ça. Quand on rencontre quelqu'un, on ne s'intéresse pas à son état civil ni à sa condition sentimentale. Les sentiments sont changeants et mortels. Les couples me dégoûtent, leur hypocrisie, leur suffisance. Donc, elle fait ce qu'elle entend faire et ni la chance, ni le bonheur ne sont au rendez-vous. Elle rencontre un homme politique, un type sans cou qui m'arrive à l'épaule, qui se présente comme un grand libertin. Il m'a toujours appelé petite fille. Bon, bah, très bien. Il veut faire des expériences libertines. Il amène une amie à lui, Corinne. Je sers un apéritif. Jacques a dit, puisqu'il s'appelle Jacques et Coupeau, mettez-vous à l'aise, mes chéris. On s'est un peu déshabillés, mais pas complètement. Et puis, tout d'un coup, il s'est mis à ricaner, à tripoter son gros ventre poilu, à titiller sa braguette, et tout à coup, il a dit « Eh ben, rapprochez-vous, les filles !» J'ai encore honte de cette phrase, honte de notre position, de la lumière crue, de l'absence complète d'imagination et de domination de Jacques. J'attendais le marquis de Sade et j'avais un type vautré qui disait « Eh ben, rapprochez-vous les filles ». Voilà une scène très forte qui reste en mémoire, mais il n'y a pas d'issue non plus dans le libertinage, puisque le libertinage semble à ce moment-là aussi décevant que la fidélité et le mariage.
Yasmine, oui, encore
à ce moment-là, en tout cas.
Encore que là, on ne puisse pas vraiment parler de libertinage. Non. C'est un échec pathétique, c'est un libertinage minable, c'est l'idée du libertinage.
Oui, c'est ça.
Mais c'est difficile de dire qu'il n'y a pas d'issue dans ça ou ça, on ne cherche pas des issues.
Oui, mais en tout cas, on a l'impression que le livre, avec toutes ses expériences, ferme aussi toutes les portes. Et je lis aussi cette phrase à la fin d'un monologue. J'ai repensé à la phrase de mon ami Serge, au moment où il débutait son Alzheimer. Il voulait se rendre, pour je ne sais quelle raison, rue de l'homme marié. Personne ne savait où était cette rue de l'homme marié. On a fini par comprendre qu'il parlait de la rue des martyrs. Martyr de l'homme marié, martyr de la femme émancipée qui ne rencontre qu'un pseudo-libertinage. Bon, voilà, l'échec est partout, quoi.
Oui,
dans le livre, en tout cas.
C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de dire l'échec est partout, c'est pas d'écrire un livre pour prouver ou pour montrer qu'il n'y a pas d'issue. Je n'aimerais d'ailleurs pas du tout que ce soit un point de départ possible pour moi, ça m'intéresserait même pas d'être dans une telle démarche. J'essaye simplement, un peu comme Emmanuel, autrement, mais un peu avec une démarche similaire, de mettre sur le papier ce que j'ai pu, moi, expérimenter émotionnellement, non pas sur le plan biographique, mais en tout cas émotionnellement, que d'autres autour de moi ont pu expérimenter émotionnellement, et de comprendre pourquoi c'est si difficile, déjà de vivre, mais de vivre des relations passionnelles. Pourquoi ? Ce livre n'est qu'une question qui évidemment, prend des allures pessimistes, parce que on ne répond pas favorablement. Mais je ne décide pas du tout de ne pas répondre favorablement. C'est que c'est la douleur qui prime, parce que je pense que c'est la vérité. Je pense que aimer est une douleur. Pour quelques instants exaltants, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de retrécissement de soi. C'est une douleur.
Alors, je parlais tout à l'heure du mariage comme une conversation ininterrompue selon Milton. Il n'y a pas une issue dans le roman, mais il y a quelque chose à un moment donné, une sorte de nostalgie étrange et belle. C'est le monologue de Jeannette Blot. Elle vient de perdre, ou elle va perdre, enfin oui, son mari, Ernest Blot. Et elle connaît les affres du vieillissement, donc elle entre dans une cabine d'essayage, c'est très beau ça. Et puis, c'est sa sœur, Marguerite.
Sa belle-sœur.
Sa belle-sœur, pardon. Oui, justement, c'est très intéressant. Sa belle-sœur, Marguerite, qui lui dit d'essayer tout ça. Et puis elle voit ses robes sur elle est effarée, elle veut pas, elle se sauve de la cabine d'essayage. Mais à un moment, elle est très sensible à la sollicitude de sa belle-sœur. Et il y a cette phrase que je trouve très belle, sur laquelle je me suis arrêté. J'adore Marguerite, j'aimerais mieux l'avoir épousée elle que son frère. Oui, comme une sorte de possibilité là qui s'ouvre. Après tout, ben oui, voilà. Si on met entre parenthèses la question de la sexualité, peut-être, voilà, peut-être c'était ça pour elle, le couple, la vie à deux, le mariage réussi.
Oui, mais ça, j'aime beaucoup que vous ayez repéré cette phrase, parce que, et beaucoup de gens l'ont repéré. Je pense qu'elle est juste. Au sens, on peut vraiment éprouver ça. Tout est tellement codifié que on ne pense pas, à moins d'être dans une sexualité ouvertement homosexuelle, où là maintenant avec le progrès des lois, elle peut être considérée comme appartenant aux mêmes critères dans la société. Mais sinon, la vie à deux, le lien, je ne pense pas qu'au départ il soit vraiment exclusif d'un sexe à l'autre. Je pense que que vivre avec quelqu'un, ça n'a rien à voir avec...
Oui, c'est ça. Donc ça revient à la question du sphinx, c'est-à-dire on a tout voulu rassembler dans un seul...
Mais j'adore que vous ayez mis cette
phrase,
elle est tellement vraie.
C'est dans ce deux.
Extraordinaire, la question du sphinx.
Oui.
Et c'est vrai que la même personne, c'est une folie, mais une folie furieuse de vouloir que la même personne soit tout ça. Amante, maîtresse, je sens que vous n'êtes pas du tout d'accord.
Non, je dis, c'est sans doute une folie, mais ça peut être une chance.
Mais voilà, d'ailleurs, non, il faut tenter les folies. Je ne suis pas contre les folies, même je suis très pour. Mais oui, ça peut être une chance aussi, bien sûr.
Emmanuel Pargano, je citerai tout à l'heure un autre auteur auquel m'ont fait penser vos deux livres. Mais là, sur cette présence du corps dans votre livre, je voudrais citer deux passages que j'aime beaucoup. Je l'ai aimé par ses mains immédiatement. Lui, il est le premier homme de ma vie à m'avoir serré la main. Les autres, familiers ou non, me faisaient la bise. C'est vrai, ça a complètement disparu. On ne serre plus les mains. On fait systématiquement la bise d'un air plus ou moins gêné. Les ministres se font la bise maintenant. On se fait la bise tout le temps. Et là, cette réhabilitation d'un geste ancien et cette érotisation même, je l'ai trouvée très bienvenue. Et puis, alors là, on est dans la douleur. J'avais une verrue à l'index de la main gauche. Il répugnait à me donner la main. Il me demandait tous les jours de la faire enlever. La dermato m'a dit que ce n'était pas gênant, que je pouvais la garder. J'ai insisté pour qu'elle la brûle. Elle est devenue une drôle de chose ratatinée, toute blanche puis brune, et elle est tombée. Je n'avais aucune trace, aucune cicatrice. Quelques semaines après, il m'a pris la main pour m'annoncer qu'il venait de rencontrer quelqu'un d'autre. Le soir même, un petit bourgeon est apparu au même endroit. Et lentement, jour après jour, ma verrue d'origine est revenue. Voilà, c'est vrai, on n'a pas besoin d'en savoir davantage. Et c'est encore une histoire réelle.
Oui. Et il y a aussi une autre histoire avec les mains. C'est une histoire où quelqu'un est aux urgences et une main très douce, très douce et tenue. C'est la main du monsieur qui est aux urgences. Sauf qu'il ne veut pas de cette main-là, cette main jeune et douce. Et on comprend après, quand il reconnaît enfin une main, c'est une main usée.
Pour moi, si je peux me permettre, c'est un des plus beaux textes de votre livre, ça.
Merci.
J'ai adoré ce fragment. La main douce, très compatissante, très agréable, ne lui est d'aucun secours. Mmh. Et quand survient, j'ai pris votre relais, pardon.
Non, très bien.
Survient la main rêche, un peu âgée, si je me souviens bien,
oui.
Qui n'est pas agréable pour quelqu'un d'autre, sûrement. Mais voilà, c'est la main qu'elle aime, qu'elle connaît, qu'elle reconnaît. C'est très, très beau, ça.
Et effectivement, beaucoup de choses, il me semble, passent par les mains. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes personnellement avec mes mains. D'abord, elles sont trop petites. Je suis extrêmement maladroite alors que je fais plein de choses concrètes. Et je me blesse souvent et tout ça. Et j'écris, donc. Donc voilà, je me suis dit que beaucoup de choses...
Vous écrivez comment, à l'ordinateur?
J'écris à l'ordinateur, mais avec mes mains, pas avec une reconnaissance vocale.
Oui, d'accord.
Non, mais voilà, c'est quelque chose de une espèce de talon d'Achille pour moi, je sais pas, quelque chose où beaucoup de choses se passent. Alors,
vous commencez à l'ordinateur, vous n'écrivez pas d'abord au stylo.
Alors,
dans le trait de jeu, vous commencez, même le brouillon, vous le faites.
Ça m'arrive de prendre des notes dans un carnet, parce que je ne me balade pas toujours avec mon ordinateur, mais sinon, le premier texte, c'est à l'ordinateur, après j'imprime, je corrige à la main. Mais oui. Peut-être aussi par facilité, justement, manuelle, concrète de l'ordinateur, parce que ma graphie est illisible. Mais voilà, je me sens que la main est vraiment quelque chose d'important et que beaucoup de choses se jouent. Mais je pensais tout à l'heure à ce que disait Yasmina sur la guerre et que quand j'étais petite, dans les années 70, on disait beaucoup « faites l'amour, pas la guerre » et c'est quelque chose qui me perturbait parce qu'il me semblait que c'était la même chose. Et que le rapport amoureux, c'était une guerre. Et vous parliez aussi de stratégie. Et il me semble que finalement, c'est la même chose. C'est le même rapport au monde d'essayer de se sauver au sein du couple. Voilà, une espèce de conflit. Qui va être au premier plan ou qui c'est qui va avoir le plus la parole ou je ne sais quoi. Et tout ça, c'est très complexe. Et voilà, je pensais juste à ça, je ne tire aucune conclusion.
Alors, je retiens le mot de guerre parce qu'il y a quand même de la violence, une sorte de guerre sentimentale dans certains des textes que vous écrivez l'une et l'autre. Et l'auteur auquel j'ai beaucoup pensé en vous lisant, c'est Nathalie Sarraute, parce que est membre des membres de ce qu'on a appelé l'école du nouveau roman, mais à la différence des autres romanciers réunis autour de Jérôme Lindon, elle élaborait une psychologie. Pas question pour elle d'illusion référentielle, de replier l'œuvre sur elle-même. Elle cherchait à saisir une réalité mouvante, celle des tropismes, des impressions de la pensée fugitive, impalpable, des affects comme ça qui traversent la conscience et qui forment souvent le sous-texte violent des conversations les plus anodines. Et dans l'air du soupçon, elle dit « Les paroles, pourvu qu'elles présentent une apparence à peu près anodine et banale, peuvent être et sont souvent, sans que personne y trouve à redire, sans que la victime elle-même ose clairement se l'avouer, l'arme quotidienne, insidieuse et très efficace, d'innombrables petits crimes. » Et très souvent, comme ça, chez vous, Yasmine Areza, il y a des intonations. Il y a des choses. Le Morbier, par exemple. J'aime le Morbier. Pourquoi ? Mais c'est ta mère, etc. Il n'y a que ta mère qui aime le Morbier. C'est pour ça que moi, je n'en veux pas, je le rejette. Et l'intonation est là aussi pour faire passer des messages absolument terribles. Et vous essayez, enfin, je dirais pas du tout à la manière de Nathalie Sarraute, mais un peu à la suite de ce qu'elle a voulu faire, de les saisir. Donc là, son conversation, dans la conversation.
Et oui, bien sûr, ça c'est une chose que j'essaye de faire, même avec le théâtre, depuis toujours, et pas seulement avec les mots, avec les gestes aussi. Par exemple, dans le livre, il y a un moment très précis où elle fait tomber un CD dans une voiture, un CD qui appartient au conducteur et qui est son amant, mais dans une voiture qui appartient aussi probablement à la femme de l'homme, et lui... Avant même qu'elle ait le temps de ramasser le CD, se baisse, le prend et le range en tapotant les autres CD, en tapotant le tout pour refaire un ensemble parfait. Et ce petit geste-là, qu'il exclut de sa vie, qu'il exclut de la voiture, qui est presque une condamnation, une petite punition, tu n'aurais pas dû le faire tomber, tu as détruit l'ordre qui est mon intimité. C'est un geste complètement anodin, je pense, en fait déchirant, et qui lui fout en l'air la soirée. Et c'est avec ces choses-là que je me réjouis d'écrire, moi, personnellement.
Une dernière chose, Emmanuel Pagano, passage que j'ai beaucoup aimé, vous parlez, c'est une femme qui parle, qui est élagueur indépendante. Mmh. Et elle a cette phrase, donc ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait ? Elle élague les branches des arbres,
oui.
Qui est assez rare pour une femme, bien sûr, d'où le mot élagueur. Pourquoi vous dites, vous avez fait l'amour ? Beaucoup de femmes font ça ?
En fait, je n'en sais absolument rien, s'il y a beaucoup de femmes ou pas, mais je ne pense pas que ce soit si rare que ça dans les chantiers. Ah oui, oui, je sais pourquoi j'ai fait ça.
Alors en tout cas, voilà, oui. Je ne dis jamais élagueuse. Les élagueuses sont toujours des machines, des outils, perches élagueuses, tronçonneuses élagueuses. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un objet. Je suis une femme, élagueur, donc en indépendante. Et d'ailleurs, on ne dit pas mannequin. Écrivaine, des fois si, mais pas toujours. Et ça, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. On ne dit pas sentinelle, N-E-L, non plus. En haut des géants menaçant de casser, je suis une sentinelle. Si j'étais un homme, je serais toujours une sentinelle. J'ai beaucoup aimé cette phrase, parce qu'il y a énormément de disputes autour de écrivain, écrivaine. Et avec ce mot sentinelle, on rétablit un peu les choses. Des hommes ne diraient pas « je veux être un sentinelle ». Ils acceptent d'être une sentinelle, alors que quand une femme choisit d'être écrivaine, on entend tellement le mot de vanité qu'on se dit qu'elle se punit à force de vouloir s'affirmer. Donc, il me semble que votre texte le dit, le suggère du moins, Emmanuel Pagano.
Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a une espèce de mise en abîme là, parce que j'ai beaucoup joué avec ce nous et ce je sur le genre sexué des narrateurs et narratrices, de sorte que parfois on ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui parle. On ne sait pas si cet homme ou cette femme parle d'un homme ou d'une femme, ou s'il s'agit de deux femmes ou de deux hommes. Parfois, j'ajoute juste petite quelque chose pour comprendre que, ah, mais donc c'était deux hommes ou deux femmes. Et parfois, j'ai laissé l'ambiguïté. Mmh. Et personne ne peut savoir le genre de la personne qui parle, puisqu'il me semblait que dans la relation amoureuse, peu importe, là, de point de vue duquel on se place, que ce soit un homme ou une femme, il me semblait que ça n'importait pas. Et sinon, par rapport à cette histoire des lagueurs, je sais pourquoi j'ai fait ça, c'est juste parce que j'avais... Moi, avant, j'étais professeure, donc pas professeuse. J'étais professeure et il y avait une de mes élèves qui voulait travailler dans le bois et elle n'a pas pu parce que il y a eu beaucoup de parce qu'il y avait que des garçons autour d'elle et que ça s'est très très mal fini. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que c'est dommage parce que la forêt, c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de filles que de garçons. Donc pour voilà.
Qui seraient des élagueurs, les filles
qui seraient des élagueurs,
des élagueurs indépendantes
ou d'autres métiers de la forêt. Voilà, voilà. C'est tout.
Et je lirai un dernier texte pour finir cette émission. Particulièrement terrible. Emmanuel Pagano, le voici. Avec l'âge et la maladie, indélicate, impudique, elle s'est emparée de moi, de mon intimité. Elle veut s'occuper elle-même de mes couches, parce que je n'ai pas de sac à main, parce que je vais oublier. Tous les prétextes sont bons pour avoir à me passer le moins discrètement possible, tout en ayant l'air de l'être, discrète, attentionnée, la garniture dont j'ai besoin, au resto par exemple, sous la table, en disant suffisamment fort « Tiens !» avec des sourires faussement gênés pour nos voisins, et après s'être assuré que tout le monde peut voir, quand, lors d'un séjour chez elle, notre fille nous a demandé ce que nous voulions au petit déjeuner, elle a répondu qu'elle ne voulait pas de jus d'orange, mais qu'il en fallait pour moi, parce qu'elle m'en faisait prendre, contre la constipation. Elle me surveille sans cesse à l'affût de mes hontes, de mes gaz, de mes humiliations quotidiennes. Au moindre doute, surtout si nous ne sommes pas seuls, elle me demande si par hasard, je n'ai pas envie de faire caca, là, chérie. Ah, ce sont vraiment les petits crimes de Nathalie Sarraute, hein, les paroles qui font passer des petits crimes. Et c'est l'intimité, la promiscuité dans ce qu'elle peut avoir de plus affreux. Je ne dirais pas que c'est le dernier mot du livre.
Non.
C'est une des nouvelles parmi d'autres, mais enfin, elle est là, Emmanuel Pagano. Bah,
rien n'est plus physique que le sentiment de la honte. Donc, oui. Ouais, c'est peut-être même plus physique que la sexualité, la honte.
Oui.
Donc, c'était quelque chose qu'il fallait explorer, il me semble.
Il faut explorer, oui. Voilà. Mais l'art de faire honte aussi, c'est ça aussi qu'il s'agit d'explorer.
C'est
l'art de faire honte qui est une des possibilités de la vie conjugale.
Oui.
Voilà. Mais bon.
Mais pas la seule.
Pas la seule. Ben voilà, nous resterons sur ce « pas la seule » et je voudrais renvoyer les auditeurs à vos deux livres. Yasmina Reza, ce très beau roman, « Heureux les heureux », aux éditions Flammarion. Emmanuel Pagano, Non-nous, aux éditions POL. Alors, comment le qualifier ? Pièce brève ? Fragment ? On le laisse dans l'indécision.
Oui.
Voilà, très bien. Donc, Non-nous, Heureux les heureux. Et vous trouverez les autres références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Les nouveaux défis de la laïcité ». Mes invités seront Nassira Guénif Souyamas et Alain Sexig. C'était Réplique. Une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Philippe Palares, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.